Cet épisode a été enregistré sans voix le 25 mars 2024. Tout ce que vous allez entendre est peut-être déjà obsolète. Compte plein de retraits, play ball. Hey, take me out to the ball game. Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and cracker jack. I don't care if I never get back. Let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame. Cause it's one, two, three strikes, you're out at the old ball game. Grande équipe, deux bureaux et deux podcasts par jour. C'est l'épisode 29, c'est présenté par moi, Mike, et la vipère assassine, Guillaume.
Salut à tous, salut Mike.
Je suis en manque d'inspiration, je suis au bout du rouleau. Los serpientes están calientes. Les losers intersidéraux vont-ils devenir des gagnants durables? Bienvenue chez les Arizona Diamondbacks. Le Marty, les D-backs en 2023 avec Madison Bumgarner. Or là, je ne distingue qu'un Zach Gallen. Et oui, Doc, vous vieillissez. Et les jeunes prennent le pouvoir. Et oui, les D-backs ont pris pouvoir. 84 victoires, 78 défaites. Avec un line-up so-so. Une starting rotation pas terrible. Des relief pitchers pas beaucoup mieux. Un bilan de 84-78 et une 78e place à la wildcard qui leur permet d'y atteindre un petit passage à vide au mois de juillet, mais ça passe quand même fin septembre. Une deuxième place de la division wildcard. Ils n'avaient plus connu la possession comme depuis 2017, plus gagné un match de possession depuis 2011. Le pitching globalement a tenu sur allez deux gars, Zach Gallen, troisième au vote de Cy Young, All-Star. 4,3 de WAR, 125 d'ERA+, 225, 210 innings pitch. Une saison légèrement moins bonne sur les totaux qu'en 2022, mais avec de tels chiffres, c'est quand même une belle régularité. Et puis, Merrill Kelly, un peu injuste qu'avec de tels chiffres, il n'ait même pas été mis dans les votes pour le Cy Young, mais 3,8 de WAR, 132 d'ERA+, 177 innings pitch pour 187 K. Vraiment, c'est les deux qui ont porté la starting rotation et même tout le pitching staff. Batting, bon, global, c'est moyen. Il y a quand même trois individualités qui ont vraiment tout pété cette année. Corbin Carroll, 5,4 de WAR, 5e au vote de MVP, Rookie of the Year. C'est un vrai détonateur. Hein. Il a plus de 116 runs au PS Plus à 134, 25 home runs, 54 stolen bases. Ketel Marte, on savait qu'il en était capable. Ça fait quelques années dans les comptoirs qu'on dit c'est sur lui que ça va reposer, sur lui que ça va reposer. Mais depuis 2019, on l'avait pas vu à son meilleur niveau. Ben là, il l'a fait. 4,9 de WAR au PS Plus à 128, 25 home run. Vraiment très très bon. Puis Gabriel Moreno, 4,3 de WAR au PS Plus à 104. Donc pile poil ce qu'il fallait. Mais on peut aussi citer Christian Walker à 3,8 et Lourdes Gurriel à 3. Ce qui fait quand même qu'au bout de 5 mecs dans le line-up, ça fait quand même un beau collectif. C'est juste que les 4 autres devaient pas être vraiment très très bons. À la trade deadline, ils ont été récupérés. Tommy Pham, outfielder, et Jace Peterson. Et ensuite, relief, Strelitzky pour Paul Sewald. Ils vont perdre Jeremy Rodriguez, Andrew Sheffield, Josh Rojas, Ryan Zone et Chad Patrick. En gros, on connaissait vraiment que Andrew Chafin. Les événements marquants, bah, les D-backs ont quand même re-signé une extension à Corbin Carroll de 8 ans pour 111 millions avec une option pour l'année 9. Ce qui, quand même, après son titre de NL Rookie of the Year, fait qu'ils ont un solide joueur sur lequel bâtir pour un contrat plutôt team-friendly en vrai. On se rappelle aussi qu'ils ont célébré dans la piscine du Chase Field deux fois, alors qu'ils ont gagné ils ont clinché leur wildcard spot, puis une fois qu'ils ont sweepé les Dodgers en NLDS, ça a fait quelques petites polémiques, etc. Mais ils l'ont fait, c'était cool. Pecota les voyait 75-87 avec 9 victoires de moins que la réalité. Il faut regarder les WAR de Carroll et de Moreno, et c'est à peu près là hein, quand on regarde les WRC+. Post-season, on a parlé de comment ils y arrivaient face aux Brewers, on a parlé de comment ils y arrivaient face aux Phillies, on a parlé de comment ils arrivaient pardon, face aux Dodgers, Brewers, Dodgers, puis Phillies, et puis ces World Series face aux Texas Rangers. Écoute, on n'a jamais vraiment senti les D-backs capables de faire quoi que ce soit. Le fait qu'ils aient gagné autant de matchs à un point ou à deux points, vraiment très resserré durant toute la saison, durant la post-season, fait que bah là, ces matchs-là, ils les ont perdus 6-5 le premier, victoire 9-1 le deuxième, perdu 3-1 le troisième, 11-7 le quatrième et 5-0 le cinquième. Ils ont été au-dessus, ils étaient meilleurs, ils avaient un meilleur pitching staff, une meilleure profondeur de line-up et de banc, de bullpen aussi. Voilà, rien à dire. Guillaume, quand c'est la fin de la post-season?
Eh ben, place à la off-season. Allez, le payroll l'année précédente, en 2023, c'était 94 millions de dollars à peu près. Cette année, 138,5 millions de dollars. C'est plus de 50% depuis la saison 2023. Quand t'as les moyens d'ores et déjà d'aller au bout, bah all-in, hein, de toute façon. Donc oui, c'est pour les D-backs, 138 millions, c'est un all-in. Les enjeux et les attentes avant la post-season, bah, augmentation du budget et faire les ajustements nécessaires pour reproduire le miracle de la saison passée. J'ai bien utilisé le mot miracle, on en reparlera après. La note qu'ils ont eue pour la off-season, c'est A-. Ils ont réussi à augmenter le niveau de leur rotation et leur force de frappe, notamment avec le gaucher Eduardo Rodriguez. Ils ont signé Eugenio Suarez, Jock Peterson et Randal Grichuk. Et ils ont réussi à ramener Lourdes Gurriel Jr. pour un contrat de 3 ans. Pendant la off-season, ils ont fait en arbitration, ils ont évité l'arbitration avec Christian Walker, première base. Ensuite, toute une tripotée de relief, Joe Mantipli, Paul Sewald, Kevin Ginkle, Ryan Thompson et Zach Gallen également, starter. En free agency, ils ont réussi, donc on l'a dit, à conserver Lourdes Gurriel Jr. pour 3 ans. Ils ont signé Randal Grichuk, Jock Peterson et Eduardo Rodriguez pour 1 an pour Grichuk et Peterson et 4 ans pour Eduardo Rodriguez. Ils ont perdu Kyle Lewis, donc à qui ils n'ont pas, enfin non-tendered, Austin Williams, Tyler Gilbert, Evan Longoria, Tommy Pham, Mark Melanson, et voilà. Sinon en trade, ils ont récupéré Christian Mena, un starter des White Sox contre Dominic Fletcher, un outfielder. Et Eugenio Suarez, effectivement, troisième base, qu'ils ont récupéré des Mariners pour Sebi Zavala, un catcher, et Carlos Vargas, un relief pitcher. Ils sont, au niveau des prospects, ils sont quatrième du farm system. Ils ont beaucoup, beaucoup de talents qui devraient arriver, notamment avec Jordan Lollar et Drew Jones. Par contre, ils sont un peu plus légers au niveau des lanceurs. Ils n'ont pas un autre Pfat dans le système. Mais ils vont avoir des lanceurs un petit peu back-end de rotation, pas de d'ace à venir. Donc ceux qu'on va vous risque de voir arriver cette saison, il y en a qu'un, c'est Jordan Lawler, Drew Jones et Tommy Troy devraient arriver plus tard. Le line-up prévisionnel, bah, catcher Gabriel Moreno, première base Christian Walker, deuxième base Ketel Marte, troisième base Eugenio Suarez, shortstop Geraldo Perdomo, en champ gauche Lourdes Gurriel Jr., en centre Alec Thomas, à droite Corbin Carroll, DH Jock Peterson. Sur le banc, Tucker Barnett, catcher, Blaze Alexander, infielder, Emmanuel Rivera, infielder, Jace Peterson, utility. La rotation, Zach Gallen, Merrill Kelly, Eduardo Rodriguez, Brandon Pfaadt, Ryne Nelson, en closer, Paul Sewald. Les setups, Kevin Ginkle, Michael Castro, et dans le bullpen, Andrew Saal Frank, Scott McGough, Ryan Thompson, Joe Mantipli et Luis Frias. On retient quoi, Mike, de cet effectif pour la saison à venir?
Ce qui a été une vraie force, je pense qu'on est obligé de parler de Corbin Carroll. On parle du franchise player, on parle du mec qui est le symbole de cette espèce de fraîcheur, de cette équipe qu'on n'attendait pas. Il a vraiment transformé la franchise. Alors, à lui seul, peut-être pas, mais en grande, grande, grande partie. Surtout, je crois qu'il a été le facteur déclencheur. Tu sais, l'espèce de X-factor de se dire, mais attends, on peut le faire, c'est possible. Quand il a vu ce qu'il a fait l'an dernier, s'il refait à minima aussi bien, c'est un MVP contender. En vrai, il est projeté quand même très très bien dans les différentes notes. Il est projeté combien? 13e? 13e?
Vas-y, mon rôle.
C'est un top 15 pour sa deuxième saison. Ça situe un peu le bonhomme. Et surtout, ce qui est bien avec ce Corbin Carroll, c'est qu'il n'est pas seul en vrai. Parce que t'as un trio, le Walker, Marte, Moreno, qui, bah, avec aussi Gurriel, que je rajouterai, plus d'autres noms, hein, les Pederson, les Suarez, Alec Thomas, c'est ça. Plus potentiellement Lollar. Non, il y a un line-up qui est pas si mal, hein, qui est vraiment pas si mal.
Il est pas si mal. Je suis d'accord avec toi. Enfin, j'ai l'impression en fait ce qui ressort en fait de ces 10 backs, c'est et je l'ai dit quand je l'ai écrit en fait, j'ai dit c'est j'ai l'impression que c'est énormément de chance. Ils sont arrivés vraiment par un trou de souris. On ne sait pas en fait. Au final, c'est pas normal qu'ils soient arrivés. Tu vois, avec les stats qu'ils avaient en équipe, leur classement final, il vaut pas les stats qui ont été qu'on voit donc voilà, j'ai l'impression en fait que même s'il y a eu des apports, des trucs comme ça, effectivement ils sont plus forts que l'année dernière, mais est-ce que ça les met aussi forts et est-ce qu'ils vont aller aussi haut que l'année prochaine, que l'année dernière? Ça, j'en suis vraiment pas sûr. C'est une question qu'il va falloir qu'on se pose.
Ouais, parce que au final, Christian Walker en 2022, c'est une belle surprise. On se dit, ok, 2023, il est peut-être un peu moins bon dans les stats au final, mais il est quand même très bon. Donc s'il continue sur ces standards-là, c'est un très bon joueur. Ketel Marte, putain, hey, ça fait des années qu'on en parle et qu'on dit il va être là, ça va être lui, c'est le moment, c'est le joueur. Bon, c'est pas encore le Ketel Marte d'avant Covid, où il avait été vraiment, il a posté une saison notamment à 6 devoirs. Bon, il n'est pas encore là, mais déjà les 4 et quelques, c'est déjà pas mal. Gabriel Moreno, au apport offensif moyen, on l'a dit, mais il a vachement été très très bon. Il a vachement été très très bon, on va dire. Il a été excellent derrière la plaque, et contrairement à ce qu'on pouvait attendre d'un petit catcheur de 23 ans pour sa première saison, il a été quand même un des meilleurs en termes défensifs, en tous les cas en termes de métriques. Donc on s'attend à ça. Et puis surtout, les signatures. Il faut qu'on parle des signatures parce qu'ils font des vraies additions. Jock Peterson et Eugenio Suarez, eh ben on sait pourquoi ils viennent. Ils viennent pour la puissance, les mecs. Ils viennent pour apporter du extra basic, pour apporter du home run. Et clairement, l'an dernier, les D-backs, c'est un truc dont ils ont manqué, hein, parce que home run, ils sont 22e. 22e. Donc, ils ont besoin de cette puissance-là. Ils font plutôt des bons ajouts. La seule question qu'on a, c'est qu'en fait, dans tous ces joueurs-là, en vrai, on n'a que des joueurs plutôt versatiles. Des joueurs où on se dit, ah, mais attends. Ils sont hyper polyvalents, ils peuvent faire plein de choses, mais est-ce que c'est des joueurs constants? Est-ce qu'ils peuvent répéter des saisons de haut niveau tous les ans? Et c'est là où on a des doutes sur les D-backs.
Bah, c'est là que tu as le problème. On parlait de Jock Peterson, mais Jock Peterson, on a déjà vu que ses stats en moyenne, déjà, c'est un platoon hitter, parce qu'il frappe mieux d'un côté que de l'autre, ça c'est clair.
Ah, ils annoncent qu'il devrait être platoon entre lui et Grichuk.
D'accord. Et la deuxième chose, c'est que malgré le fait qu'il soit platoon, ses stats en saison régulière, elles sont pas très bonnes. Il n'a pas des OPS plus qui tapent tout, quoi. Alors par contre, effectivement, c'est un des mecs les plus clutch en post-season. Ça, on peut pas lui enlever ça. Donc oui, je suis d'accord. Maintenant, après, tu regardes à des postes qui sont un petit peu clés au niveau de ta colonne vertébrale. On va dire catcher. Si tu regardes catcher, shortstop, center field, t'as un très bon catcher. Après, t'as un champ centre et un shortstop qui sont c'est pas les meilleurs de la ligue. Ils sont assez moyens
C'est moyen moins, c'est moyen moins.
sur ces postes-là, tu vois. Donc, ouais, je suis d'accord. Il y a eu des bons ajouts. Voilà. On va passer après sur la rotation, parce que la rotation, effectivement, il y a eu des très bonnes choses qui ont été faites. Et on reviendra. Je redonnerai mon avis en fait général sur l'ensemble du truc, quoi. Parce que de toute façon, au niveau du si on prend la rotation, tu as un 1-2 qui est énorme. T'as Zach Gallen et qui est Emeril Kelly qui ont été énormes la saison dernière. Donc voilà, Zach Gallen, il fait une nouvelle saison en 2023 à la course au Cy Young. C'est le patron de la rotation, un des patrons de l'équipe, il est projeté 6 overall. Merrill Kelly fait une saison 2023 qui est assez underrated, même complètement underrated, qui aurait mérité quelques votes au Cy Young Award, il ne l'a pas eu. Et il se doit de la reproduire de toute façon pour qu'il puisse aller loin, quoi. C'est déjà quand tu as ces deux-là dans ta rotation, c'est énorme. Après, on a déjà vu Brandon Pfaadt, Ryne Nelson et Tommy Henry. Je t'avoue que Tommy Henry, je l'ai pas trop vu, et Ryne
Non, mais on ne connaît pas
Nelson.
parce qu'en fait, normalement, ça devrait être Eduardo Rodriguez, puisque c'est pour ça qu'il est signé. Le truc, c'est que Gallen et Kelly, ils ont été très bons, c'est vrai, ça commence à faire beaucoup, mais encore une fois, Gallen, on attend peut-être même encore mieux de lui, de Zach Gallen. Parce que on disait qu'il avait fait moins bien, mais non, c'est une connerie, il a fait 5,2 doigts versus 4,2. Il s'est carrément amélioré partout. Il prend un petit peu plus de run, mais en réalité, il lance 210 innings pitch. Est-ce que Gallen il va être capable de reproduire ce volume de manches? Est-ce que Merrill Kelly va être capable de reproduire ce volume de manches? Pfaadt, on a vu un petit peu, c'était pas mal. Pour l'instant, lui comme Nelson, on n'est pas non plus hyper convaincu que voilà, c'est des top joueurs. Le truc de cette rotation, c'est que si Eduardo Rodriguez, qui est blessé, ne revient pas comme il faut, bah, ils se sont pas améliorés par rapport à l'an dernier. Et c'était pas très bon, cette rotation. Et c'est là où il y a le problème de cette rotation, c'est que ils ont quand même eu, on a parlé de Pat et Nelson, c'est des Arapus à 76-82. C'est des WAR à 0-0 et moins 0-4. On sait qu'il va y avoir Barnhart et Moreno en platoon. Ça, par contre, c'est un vrai apport défensif. Mais Eduardo Rodriguez, quand on le met, on se dit ça va être super pour un 1-2-3. Mais le problème, c'est que s'il est blessé, bah, ils ont rien changé. Ils ont rien amélioré et c'était un vrai problème. Et le problème, c'est le bullpen derrière.
Oui, complètement. T'as le Kevin Ginkel, en fait, c'est le seul qui s'en est sorti en 2023 avec 3,1 WAR. Il y a effectivement Paul Sewald qui est arrivé, mais il est arrivé vraiment pour plutôt à partir de la trade deadline, donc c'est plutôt pour la fin de saison et pour. Mais si tu prends en fait l'ensemble du bullpen, hormis Kevin Ginkel, tout le reste du bullpen, c'est une WAR à moins 0,1. C'est une WAR qui est négative, quoi. Et il n'y a pas eu de renforcement, en fait, pendant la off-season, quoi. Donc, ils espèrent que Joe Mantipli et Miguel Castro, ils vont pouvoir rebondir.
Mantipli?
C'est pas Mantipli? Je me suis gouré?
J'aurais dit Mantiply, mais après, c'est vrai que tu joues pas au Monopoly, toi. Toi, tu joues au Monopoly.
Non, exactement. Donc en fait, ils comptent sur des rebonds, mais tu te retrouves avec. C'est bien. Enfin, je suis pas en train de critiquer ce qu'ils ont fait parce que ce que t'as fait en fait au niveau de ta signature, tu peux pas tout faire de toute façon sur une off-season. Et puis ils ont pas là, les moyens en fait financiers. C'est pas une grosse armada, c'est un little market, tu vois. Et ils peuvent pas tout faire. Donc ce qu'ils ont fait, c'est bien. Je suis pas sûr qu'ils aient réellement amélioré là où c'était le plus nécessaire. Par contre.
Bah en fait c'est ça le truc. Et tu sais, le GM il le dit, hein, Mike Hazen, il a une déclaration où il explique, tu dois donner des opportunités, des fois à des gars. En gros, il explique, si tu fermes la porte à des Salfranc, à des Ginkle, à des Thompson, à des Castro, à des Mantiply, bah en fait en vrai tu peux pas avoir de surprise. Ouais, ok, c'est cool. Mais mec, s'il y a rien qui fonctionne là-dedans, tu te retrouves avec un bullpen flingué, parce qu'aujourd'hui, leur bullpen, il est quand même. T'as Paul Sewald qui est un top 10, qui est vraiment un très très bon closer. Enfin, ouais, vraiment très bon closer. Après, t'as Ginkel qui est pas mal. Puis derrière, tu commences à monter dans des noms. Les Jarvis, Mantiply, Nelson, etc. C'est pas fou, quoi. Et puis, en plus, il n'y a pas. Enfin, farm system, hormis Jordan Lollard, tu l'as dit, il n'y a rien qui va venir arriver. Et Jordan Lollard, on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver. Donc, il y a des grosses individualités. Et puis, des fois, il y a des gros trous. Il y a des gros manques. Ce qu'on attend, c'est qu'en vrai, on va voir de la trade deadline. Hein. Ils ont fait des moves l'an dernier quand ils ont vu qu'ils étaient
dans la course.
Dans la course, il va leur falloir des bras. C'est quasi sûr, 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 sûr. Le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même un écart qui est monstrueux avec une équipe qui s'appelle les Dodgers, et il y en a deux autres qui s'appellent les Padres et les Giants. Entre le moment où on a enregistré et maintenant, il y a du changement, hein. Donc je pense qu'il est temps maintenant de se dire, Guillaume, au niveau des changements, est-ce qu'on a des changements sur les pronos de l'équipe avec nos partenaires de Parion à tort, le seul site de paris sportif qui vous assure de perdre ou de loser.
Je l'ai dit.
Post-season ou pas post-season pour les
Non, pas post-season. T'étais pas là dans l'épisode, le dernier épisode du podcast à coup sûr, mais je l'ai dit. Je les vois pas passer en post-season. Je pense que c'est un bug de la matrice 2023 par rapport au stade d'équipe. C'est pas normal qu'une équipe comme ça, elle passe. Non pas que je sois pas content, c'est juste que ça doit pas se produire normalement, et je pense pas que ça va se reproduire cette année. Pour deux raisons. Déjà, d'une, parce que les miracles, ça arrive pas tout le temps. Et de deux, ça va être très, très serré dans la course à la deuxième place de la division. Je parle pas de la première, parce que pour moi, la première, ça va être les Dodgers, et j'ai pas trop de doute là-dessus. Mais sur la deuxième, autant les Padres vont peut-être être un cran en dessous, autant va y avoir les Giants, par contre, qui, avec l'addition de Blake Snell, pour moi, ils sont repassés devant. Ils ont rajouté Matt Chapman aussi en troisième base. Je pense que la deuxième place va aller aux Giants, et je vois je pense que les D-backs, ils vont faire, ouais, 3 ou 4. Ça va vraiment dépendre. Je les vois plus faire 3 que 4, mais je suis même pas sûr encore.
Moi, j'ai mis une petite piécette sur les Padres, parce que je trouve que leur line-up et leur défense, elle est monstrueuse. Mais je remets les Giants au-dessus des D-backs parce qu'en vrai, la signature de Snell, elle change tout. Elle change vraiment tout. Et les D-backs, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'incertitudes et qu'on a l'impression que c'est l'équipe qui est là, qui flotte, qui a profité un peu d'un truc qui s'est passé, tu vois, et un peu en mode Mets 2016. Hey, salut les gars, on a une opportunité, on est là, on est passé. Et en vrai, ça va commencer à sonner compliqué pour eux. À mon avis, ça va sonner compliqué. Mais ce qui peut sonner compliqué aussi pour vous, c'est que vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast. Et ça, c'est peut-être la seule chose sensée que j'ai dite depuis le début. N'hésitez pas à vous abonner, nous donner un note et un commentaire. Ça nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. Et peut-être à ce que je m'achète du Vicks Vaporub. Guillaume, on se réécoute aujourd'hui ou pas?
Pour la dernière fois du mois de mars, oui, on se réécoute une dernière fois. Miguel, bate, hake, mate. Miguel, bate, hake, mate. Moss looks up and it's gone. Miguel Cabrera. Felices sus días y acompáñenos esta noche de show. Soy Miggy, el salsero que da la pelea, demostrando que los peloteros se la crean. Representando la vieja escuela, aparte de jugar, escribimos candela. Lanza tu mejor rima, que de los tigres la batea. El que no se acuesta cuando rumbea. El triple crown, nacido y criado en Venezuela. Vengo de barrio humilde, llamado La Pedrera. Los gringos bailan pegados, aquí no se juega. Aquí hay más talento, esto suena a bandera. Rima de sobra, pa' mata cualquiera. Se vino a guerrear, empujé otra carrera.